La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Bonjour, je m'appelle Gaël Cosandet, je suis pasteur de l'Église Adventiste du Septième Jour. La période particulière que nous traversons nous fait poser des questions quant à l'expression de nos liens, de nos relations. Nous étions habitués à nous rencontrer, à nous saluer, nous faire la bise, nous serrer dans les bras, voir nos visages, manger ensemble. Tout cela est remis en cause et ça nous manque. Et donc dans cette ambiance, le premier verset du psaume 133 résonne d'une manière particulière. Qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble. En fait, quand on y réfléchit bien, tout se résume à ça, absolument tout. Tout se joue dans les relations. Au commencement, dans la Genèse, quand Dieu crée le ciel et la terre, tout est en relation. La lumière et l'obscurité, l'eau, la terre, les plantes, les animaux. Puis il crée les humains à son image, relation. Lorsque Dieu a créé l'homme, il dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », alors il les crée homme et femme, relation. Nous sommes créés pour les relations, nous avons besoin d'aimer et de nous sentir aimés. Mais la suite de l'histoire, ce sont des problèmes de relations. Les humains décident de se révolter contre Dieu, Adam et Ève s'accusent mutuellement, Caïn tue Abel, et toute l'histoire de l'humanité racontée dans la Bible, c'est Dieu qui tente de rétablir la relation avec l'homme et d'essayer de réconcilier les hommes avec eux et entre eux. Relation. Il va venir lui-même en Christ pour vivre avec nous, à nouveau, relation, et il va jusqu'à mourir par amour pour nous, pour ses relations. Après sa résurrection, Jésus invite ses disciples à manifester son nouveau royaume à travers une communauté de croyants qui mettent l'amour en pratique, à nouveau, des relations. Et aujourd'hui, cette communauté appelle le monde à se réconcilier avec Dieu et à se réconcilier avec lui-même. Relation. L'objectif ultime raconté par l'Apocalypse, c'est lorsqu'enfin homme et Dieu seront ensemble pour l'éternité, pour une éternité de relation. Voilà, on a résumé l'histoire de l'humanité, de son origine jusqu'à sa destinée. On a résumé le sens de la vie, la relation. Alors voilà pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui pour être en relation avec Dieu et les uns avec les autres. Alors pour explorer cela, j'aimerais partager quelques réflexions sur le psaume 133 qui me semble vraiment intéressant et pertinent pour nous aujourd'hui. Voilà, si vous avez une Bible sous la main ou une application pour lire la Bible sur votre téléphone, je vous invite à vous rendre au psaume 133 pour avoir le texte sous les yeux. Alors, ce n'est pas un psaume très long, je le lis. Voilà qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les monts de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. Voilà, c'est un tout petit psaume, il ne dure pas très longtemps. Ce psaume fait partie d'une série, du psaume 120 au psaume 134, qu'on appelle les psaumes démontés. On n'est pas sûr de ce que cela voulait dire, et il y a eu beaucoup d'interprétations dans l'histoire. Certains pensent qu'ils étaient écrits pour les exilés qui rentraient de Babylone vers Jérusalem. D'autres ont avancé que c'était des poèmes chantés par les Lévites sur les 15 marches ou degrés qui montaient de la cour des femmes à celle du peuple dans le temple. C'est pour ça que certains traduisent par « psaume des degrés ». Le réformateur Martin Luther l'a interprété comme une indication musicale, c'est-à-dire des chants exécutés avec une tonalité élevée. Mais pour la plupart des interprètes, ces psaumes démontés étaient des chants que les pèlerins chantaient en marchant lorsqu'ils montaient au temple à Jérusalem pour les grandes fêtes de l'année juive. Et bien sûr, ce n'était pas seulement un voyage physique, c'était l'occasion d'un voyage spirituel. C'est comme ça que saint Augustin l'a interprété. En effet, quand vous marchez, pendant des jours, vous avez le temps de réfléchir, de méditer en chemin. Ces chants servaient d'accompagnement à ce parcours, et donc on chantait sûrement ces psaumes en chemin. Alors il semble que cette série de psaumes présente une particularité, ce sont des poèmes, et chaque vers reprend un mot du vers précédent. Alors quand j'ai lu ça, j'étais intrigué, alors j'ai joué à ce petit jeu pour le psaume 133, effectivement, on voit se répéter un mot d'une phrase à l'autre, et ce n'est pas le même. Par exemple, le mot « bon », « tov », en hébreu, se répète entre le premier et le deuxième vers, puisque on dit « voilà qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble », et au deuxième vers, « voilà, c'est comme la bonne huile, l'huile la bonne », donc à nouveau « tov », entre le premier et le deuxième vers. Et puis, entre le deuxième et le troisième, eh bien, c'est le mot « barbe », et puis, etc., etc. Donc, ce petit jeu semble bien correspondre à... Il y a bien un jeu poétique où on reprend à chaque fois un mot d'un vers à l'autre. Alors, ça pourrait sembler anecdotique. Bien sûr, on n'a pas besoin de savoir ça pour lire la Bible. On ne va certainement pas changer le cours du monde avec ça. Mais ça nous dit quand même que l'auteur du psaume n'a pas écrit au hasard. Les mots sont pensés, réfléchis. Ce compositeur est très intelligent ou inspiré, et donc ce texte a sûrement des choses à nous dire. Alors le message du psalmiste, il est très clair et il le résume dès la première phrase. Voici qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Le psalmiste célèbre la fraternité et l'unité. C'est vraiment bon d'être ensemble quand il y a de l'unité. En hébreu, ça donne « Inematov umanaim shevet arim gam yarad ». C'est une chanson populaire en Israël qui a été reprise par de nombreux groupes et je vous propose d'entendre ici la chanteuse Dalida qui l'interprétait en 1971 à l'Olympia.
Tachim gam yache Inne ma tov, inne ma tov Lah, lah, lay Lah, lay, lah, lay, lah, lah, lay Inne ma
Inema tovu manaim, inema tovu manaim.
Nous entendions la chanteuse Dalida qui interprétait en 1971 le premier verset du psaume 133 que nous explorons aujourd'hui. Voici qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Le psalmiste exprime combien la fraternité et l'unité sont bonnes. Ce mot « qu'il est bon », c'est le mot hébreu « tov ». C'est le même mot qui est répété 7 fois tout au début de la Bible dans le récit de la création. En 7 jours, Dieu crée le ciel et la terre, et à la fin de chaque jour, le récit dit que Dieu voit ce qu'il a fait et c'est bon. Sauf à la fin du 6e jour où il dit que c'est très bon. Il vient de créer l'homme et la femme. Avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, je ne sais pas si nous dirions que la création de l'homme a été une bonne chose, et pourtant Dieu a foi en l'humanité au point d'oser la créer. Parce que lorsque l'humanité vit selon le projet de Dieu, alors la relation est possible. Ce qui est bon et doux ici, c'est de demeurer ensemble. C'est le fait d'être sous le même toit et de ne pas avoir à se quitter. C'est la réunion de la famille dispersée qui se retrouve pour les fêtes à Jérusalem. Et c'est ce qui nous manque cruellement en ce moment. J'entendais récemment à la radio les messages des pouvoirs publics pour rappeler les règles de protection sanitaire. Et il y a cette phrase qui m'a frappé « Quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop ». Alors, cela faisait référence aux petits-enfants qui ne doivent pas trop s'approcher de leurs grands-parents plus fragiles face au virus. On comprend. Mais quel drame ! Le plaisir de demeurer ensemble que célèbre le psaume est sérieusement mis à mal. Mais on n'a pas attendu ce virus pour ne pas savoir comment être ensemble. Le texte fait bien référence à la famille puisqu'il parle de frères. Et le constat, c'est que les relations familiales sont parfois justement celles qui sont les plus compliquées. Dans la Bible, les histoires de frères et sœurs ne se passent pas très bien. C'est Caïn qui tue son frère Abel. C'est Jacob qui vole la bénédiction à Ésaü et Ésaü qui veut tuer Jacob. Ce sont les frères de Joseph qui le vendent comme esclave. C'est une liste longue comme l'humanité. Et de la même manière, on espérerait des belles relations de nos familles, de nos couples et encore plus de nos églises. Le grand drame, c'est que ce sont de nos relations les plus proches que nous recevons les plus grandes joies, mais aussi les plus grandes blessures. Plus on s'approche, et plus on peut se transmettre l'amour, ou alors se transmettre un virus. Tout le monde rêve de ce lieu, de ce pays, de cette église, où l'on serait dans cette unité totale, comme le décrit le psalmiste, un groupe où il est bon et doux de demeurer ensemble. Parfois on y goûte, il y a des moments de grâce, et d'autres fois, c'est quand même la cata. Alors comment faire ? Comment vivre l'unité ? Le psalmiste nous donne peut-être des clés avec la suite du psaume. Et pour ça, il compare ce « être ensemble » à 2 images. Par 2 fois, il dit « c'est comme ». Il compare donc la qualité de ce vivre ensemble à 2 images. Au verset 2, il dit « c'est comme l'huile précieuse sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements ». Alors l'image peut sembler bizarre. En quoi serait-ce bon et agréable d'avoir de l'huile d'olive versée sur la tête tellement que ça dégouline partout jusque sur les vêtements? Après, on est tout gras, il faut se laver. Alors non, ce n'est pas un problème de traduction, on parle bien d'huile. On a vu que les mots sont choisis très attentivement. Donc, voyons peut-être ce que ça veut dire. L'huile précieuse sur la tête et la barbe d'Aaron, ça fait penser à une cérémonie qui a eu lieu dans le premier temple d'Israël. C'était une tente que Dieu avait ordonné à Moïse de faire construire alors qu'ils étaient dans le désert, juste après leur libération de l'esclavage en Égypte. Voilà ce que l'on trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 30, verset 22. Je lis. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Procure-toi des parfums de première qualité, 5 kilos de myrrhe liquide, 2,5 kilos de cinnamon odorant, 2,5 kilos de cannelle odorante et 5 kilos de casse ainsi que 6 litres d'huile d'olive. Un parfumeur les mélangera pour en faire l'huile d'onction réservée à Dieu. Tu verseras de cette même huile d'onction sur Aaron et sur ses fils pour les mettre à part pour me servir en tant que prêtre. » En fait, Dieu donne ici la recette d'un parfum, avec quatre des meilleures épices de l'époque, et c'est un parfumeur qui faisait le mélange. En fait, c'était le Dior absolu. Et la coutume, c'était qu'on versait de ce parfum sur la tête des prêtres, des rois et des prophètes, pour les introniser dans leurs fonctions. C'était le symbole de l'Esprit de Dieu qui descendait sur eux pour les inspirer dans leurs fonctions. Ce geste, on l'appelait l'onction. Ça consistait à oindre une personne en versant de ce parfum sur sa tête. Et vous allez voir, vous connaissez l'hébreu et le grec sans le savoir. Quelqu'un qui est oint en hébreu, ça se dit Machiar, Messie. Et en grec, ça se dit Christos, Christ. Ça vous dit quelque chose? C'est ce mot par lequel se définissent les chrétiens, c'est-à-dire les Christiens, ceux qui ont reconnu en Jésus de Nazareth celui qui a été oint comme prêtre, roi et prophète pour les hommes. Cela est manifeste dans une histoire rapportée par les quatre évangiles, ce qui est rare, où l'on évoque le geste d'une femme. Lors d'un repas auquel Jésus avait été invité, une femme s'invite à la fête avec un parfum extrêmement précieux. On pense qu'il coûtait le salaire d'un an de travail d'un ouvrier. Dans les évangiles de Matthieu et de Marc, elle répand ce parfum sur la tête de Jésus, aux grandes dames des apôtres qui trouvent le geste scandaleux. Alors qu'ils sont obnubilés par la fortune qui est en train de s'évaporer, ils ne connaissent pas que par ce geste, cette femme indique Jésus comme ce nouvel Aaron qui a reçu l'onction et qui est donc maintenant l'intermédiaire légitime entre Dieu et nous. Ce Jésus, c'est celui qui est venu nous réconcilier avec Dieu et nous réconcilier les uns avec les autres. Relation. Voilà pourquoi le bonheur de la fraternité est comme l'huile sur la tête d'Aaron. C'est comme un parfum de bonne odeur que Jésus a répandu sur nos cœurs. C'est grâce à lui, loin, que la fraternité peut exister. On n'a pas choisi la famille de Dieu, on n'a pas choisi qui allait être dans son royaume. Mais Jésus nous a choisis, chacun personnellement, pour faire partie de cette famille. Regardez votre voisin ou votre voisine. Jésus a donné sa vie pour lui et pour elle. Chacun ici a une immense valeur. Je pense qu'il y aurait moins de problèmes dans le monde si on se rendait compte de l'immense valeur que Jésus accorde à ceux qui nous entourent. La deuxième image que le psalmiste utilise, il dit que cette unité est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les monts de Sion. C'est au verset 3. Alors dans nos contrées du nord, on râle quand il pleut, mais il y a des pays où la rosée et la pluie, c'est beaucoup plus rare et on l'attend avec angoisse, parce que de cette rare pluie dépend la survie. C'est parfois d'une pluie à un moment précis que dépend si l'on sera encore vivant l'année suivante. C'est pour cela que, dans la Bible, la rosée est un symbole de la bénédiction. C'est la rosée qui amenait la manne qui nourrissait Israël dans le désert, et Dieu lui-même est plusieurs fois comparé à la rosée qui vient abreuver et rafraîchir le désert. Alors, le psalmiste parle de la rosée qui descend de l'Hermon. C'est la plus haute montagne d'Israël qui se trouve tout au nord-est. L'hiver, c'est le seul sommet sur lequel on voit de la neige, et même pendant l'été, c'est encore vert. Là, il n'y a pas de sécheresse, il y a toujours de l'eau. Et Sion, c'est beaucoup plus au sud. C'est la colline sur laquelle était construite le temple à Jérusalem. C'est une région beaucoup plus sèche, aride. Alors géographiquement, ça ne fonctionne pas très bien. L'eau du nord ne peut pas descendre sur la colline tout au sud. Mais c'est peut-être pour indiquer qu'il y a ici un miracle. Trois fois, le verbe « descendre » est répété dans le chant. Alors pour un psaume de montée, c'est un peu paradoxal. Mais peut-être que c'est une manière de dire que l'unité, la fraternité, c'est quelque chose qui vient d'en haut. Bien sûr, on doit travailler à cette unité, travailler à se comprendre, à faire attention l'un à l'autre, à se pardonner mutuellement. Mais tout ça, c'est déjà le résultat de l'Esprit en nous. C'est le résultat de l'eau de vie que nous avons reçue en Jésus-Christ. D'ailleurs, n'avez-vous pas vécu des moments d'amitié, de fraternité tellement bons que vous les avez reçus comme un cadeau? En définitive, l'amour fraternel, c'est bien ça, un cadeau, quelque chose que l'on reçoit. Il n'y a que Jésus qui peut rassembler et faire s'aimer des gens aussi différents que ses enfants. La chanson se termine avec une bénédiction, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. Pour l'anecdote, vous savez comment on dit bénédiction en hébreu ? En fait, vous ne le savez pas, mais vous connaissez déjà le mot. Ça se dit « beraka ». Oui, quand on dit qu'on a la baraka, ça vient de l'arabe, mais les deux langues ont les mêmes racines, donc c'est bien ça. La beraka, c'est la bénédiction de Dieu. C'est Dieu qui nous fait du bien. Le texte dit « car c'est là que Dieu envoie la bénédiction ». Là, c'est où ? Vu le verset précédent, on pourrait se dire que pour le psalmiste, c'est au temple que Dieu donne la bénédiction, sur la colline de Sion à Jérusalem. Mais si on relit bien l'ensemble du psaume, on peut le comprendre autrement. Le psaume célèbre d'abord combien il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Le voilà le vrai lieu. Ça veut dire que la bénédiction et la vie sont versées là où il y a des frères et des sœurs qui vivent ensemble dans l'amour et l'unité. Jésus a dit « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». On le disait au début, tout est relation. Alors est-ce que ça veut dire que seulement ceux qui voient les frères et sœurs au culte à l'église sont bénis ? Non, bien sûr, d'autant plus que c'est difficile de se réunir dans les conditions actuelles et que certains ne peuvent pas venir à cause des risques sanitaires. Mais quand on se téléphone dans la semaine pour prier ensemble, là est la bénédiction. Quand les frères et sœurs s'associent pour distribuer de la nourriture ou faire des maraudes, là est la bénédiction. Toutes les relations inspirées par l'amour de Jésus sont les lieux de la bénédiction et de la vie. Est-ce que ces relations ne sont pas celles qui vous font sentir plus vivant ? Est-ce que ce ne sont pas les relations qui donnent un sens à la vie ? Voilà ce à quoi Dieu nous appelle par la collaboration avec lui. Pour reprendre les images du psaume 133, Dieu nous donne l'esprit symbolisé par l'huile et par la rosée, et à nous de la transformer en relation concrète. Le texte termine avec ces mots. Pour toujours. Voilà le but ultime. Que ça dure toujours. La promesse de Dieu, c'est qu'en Jésus-Christ, nos liens ne seront plus détruits par la discorde, la maladie ou la mort. Nous pourrons vivre éternellement ces relations réconciliées avec Dieu et avec nos frères et sœurs. En voilà un beau programme que nous pouvons commencer à vivre dès aujourd'hui. Alors nous pourrons dire avec le psalmiste que c'est bon, que c'est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Amen.
Mother, brother, shout for joy. We're going on a journey to Jerusalem. So many, many sinners seek a rest few will find. Are you gonna be one of them? Somebody sing hallelujah. Somebody say amen. There's joy on the journey to Jerusalem. Somebody say hallelujah, somebody say amen. The road is shown to all of God's children, 'cause we are one heart. So far to go. Ask Jesus to come and help Mother Mary. He'll come and he's your Lord. Somebody say hallelujah. Somebody say amen. There's a joy and a journey to Jerusalem. Somebody say hallelujah. Somebody say amen. The road is shown to all of God's children, 'cause we are one heart, one mind. We seek the truth and find it in Jerusalem. One faith, one God. Blessed are the feet that walk the road to New Jerusalem.
be the